C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Ce que Jérémie a prophétisé en son temps pour les prêtres de son temps reste pleinement valable aujourd'hui. Nous, les prêtres, nous ne sommes pas à la hauteur de notre mission. Un tel prêche trop longtemps, un autre est caractériel, l'autre embête tout le monde en confession, sans parler des abus. Nous sommes objets de la miséricorde divine et je pense que Dieu doit avoir trois fois plus miséricorde d'un prêtre que de n'importe qui d'autre dans le peuple chrétien. Nous ne sommes pas à la hauteur et nous ne serons jamais à la hauteur parce que nous sommes chargés de représenter le Christ tête et qui peut ressembler au Christ sur cette terre sans être un martyr, sans être capable de vivre les choses les plus difficiles alors que nous sommes si pauvres, nous les prêtres que Dieu a appelés. Et je pense que c'est sain que nous en ayons conscience. Cette semaine, je lisais dans la Croix un laïc qui se plaignait des prêtres en disant qu'ils étaient, etc. Bon, je ne sais plus exactement l'intitulé de la lettre. C'est jamais très sympathique à entendre, mais il a raison. Simplement qu'il se regarde sur lui-même pour voir où il en est. Mais cela dit, nous ne sommes pas à la hauteur. Et le fait que nous ne soyons pas à la hauteur et que nous en ayons conscience, tous les prêtres, me semble être une étape très importante dans le ministère. Parce que c'est cette étape-là qui va nous permettre de demander à Jésus lui-même d'être le pasteur de son peuple. Car il n'y a qu'un seul vrai, unique pasteur, berger, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous, les prêtres, nous sommes simplement chargés de montrer ce pasteur, comme faisait le curé d'Ars en montrant le tabernacle, il est là. Non pas que le peuple nous regarde nous et que nous soyons objets de louanges du peuple, car nous ne les méritons pas, mais que le peuple regarde le Christ, l'unique pasteur. Voilà ce qui fait la joie d'un prêtre. Les apôtres, quand Jésus les envoie encore en mission, les envoie pour la première fois en mission, n'en sont pas arrivés à cette conscience-là, il me semble. Ils n'ont pas encore vécu l'expérience de la croix du Christ et donc l'expérience de leur faiblesse propre, leur incapacité à se tenir au pied de la croix du Christ, comme Jésus nous le demande. Et Jésus permet dans sa miséricorde que leur première mission soit féconde. Il leur a donné pouvoir de guérir les malades, de libérer les personnes possédées, d'enseigner selon ce qu'ils ont entendu de la parole du Christ lui-même. Et en revenant auprès de Jésus après cette mission qui s'avère être féconde, et ils sont complètement enthousiastes comme on le voit dans les autres évangiles, ils sont un peu comme des petits-enfants qui ont fait une expérience extraordinaire et qui viennent tout raconter à leur maman. Ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné, tellement ils sont heureux d'avoir vécu cette mission. Mais Jésus ne veut pas qu'il se laisse prendre par l'enthousiasme de cette fécondité apparente, parce qu'il sait lui-même que son histoire sur la terre va se terminer par la croix et non pas par un délire populaire. Donc il les invite à prendre un petit peu de recul, à aller se reposer pour prendre distance par rapport à leur mission. Parfois, le succès pastoral, paradoxalement, nous détourne de Dieu. Quand ça marche trop bien, on prend confiance en soi et on oublie que l'unique acteur de la mission, c'est Dieu lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont tellement affamés du Christ et on voit que c'est un peu le bazar. Parfois, vous vous dites, dans l'Église, c'est pas toujours très bien organisé, de fait, mais du temps du Christ, c'était vraiment le bazar, hein, je vous signale. On voit les gens qui partent et qui arrivent, ils n'ont même pas le temps de manger, rien n'est organisé. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui gère les choses. Donc derrière ce bazar apparent, il y a quelque chose de très profond qui se noue, et tellement profond que les gens découvrent leur soif de la parole de Dieu. Et quand Jésus s'éloigne de ce lieu avec ses apôtres en barque, ils le suivent, et ils le précèdent même sur le lieu où il va débarquer. Dans cette situation-là, le Christ pourrait s'énerver en disant « mais on ne peut même pas aller se reposer ». C'est vraiment oppressif, ces gens qui nous suivent sans cesse. Il y a quelque chose d'oppressif, d'oppressant, pas pouvoir prendre du temps de repos, tant ils sont fatigués, ils ne peuvent pas manger. Mais ce qui est vraiment extraordinaire dans cet évangile, et je pense que c'est le plus beau moment de cet évangile, c'est qu'on voit au contraire Jésus qui est saisi de compassion pour cette foule. Il est crevé, il est fatigué, il n'a pas mangé. Il est saisi de compassion pour cette foule jusqu'aux entrailles, parce qu'avec son cœur divin, il perçoit combien cette foule, qui est comme des brebis sans berger, est perdue. Parce qu'elle se laisse prendre, je dirais, par les leurs des idées de leur temps, par les souffrances, par les angoisses. Et elle ne trouve pas sens à sa vie, elle ne trouve pas de lumière pour orienter un peu sa vie. Un peu comme dans notre monde d'aujourd'hui, où la plupart des gens se laissent prendre par les lumières factices des médias, par l'esprit de la consommation, cherchent à fuir au maximum leurs propres souffrances dans des plaisirs immédiats, sauf qu'au jour des souffrances, au jour des épreuves, au jour de la mort, ils sont complètement démunis. Comme le disait une personne, c'est une infirmière qui me racontait cela, elle s'occupe d'un service pour des personnes qui sont proches de la mort à l'hôpital, une personne qui allait mourir, et elle lui demandait « Mais après, qu'est-ce qui va m'arriver après la mort ?» Cette personne a attendu d'être au seuil de la mort pour se poser cette question, qui est quand même la question la plus importante de notre vie. « Qu'est-ce qui va m'arriver après ma mort ?» Eh bien, le Seigneur, au lieu de dire à cette foule « assoiffée » ou de dire à nos contemporains qui semblent ne pas avoir besoin de Dieu, au lieu de leur dire à l'heure où ils sont perdus, où ils se sentent perdus, où ils reviennent peut-être vers Dieu, eh bien c'est bien fait pour vous, vous auriez mieux fait de me chercher un petit peu dans votre vie au lieu de regarder la télé et votre portable en permanence. Eh bien non, il est saisi de compassion, il a pitié de nous. C'est quand même extraordinaire, ce Dieu qui a tellement d'amour qu'à l'heure où nous avons soif de lui, alors que nous l'avons ignoré pendant une longue période, il est saisi de compassion et d'amour pour nous. Et ce que la grâce qu'on peut demander dans cette Eucharistie, dans cette messe, parce que je pense qu'à chaque messe, il y a une grâce particulière à demander, c'est de demander au Seigneur, nous aussi, cet esprit de compassion, de ne pas juger nos contemporains avec dureté, parce que si nous avons un petit peu de lucidité sur nous-mêmes, nous savons nous-mêmes que nous sommes aussi de grands pécheurs. Donc d'être saisis, nous aussi, de compassion, de cette compassion de Dieu qui ne veut pas que son peuple se perde, qui ne veut pas que son peuple se perde. Alors demandons cette grâce au Seigneur, et pour la recevoir, il ne suffit pas de la demander comme ça, « Seigneur, donne-moi ta compassion », il faut, il me semble, revenir vers l'adoration, vers le cœur à cœur avec Jésus, rencontrer Jésus dans un cœur à cœur, pour qu'il nous manifeste cet amour immense. Alors demandons cette grâce au Seigneur de venir le retrouver à un moment ou à un autre, peut-être en profitant des temps libres pour ceux qui ont un peu de vacances, dans l'adoration, dans la prière, pour que notre cœur s'ouvre à l'amour. Amen.